Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'équipe, la Dream Team, que dis-je, des matins, des petits matins, est en place. François Angeli, Amélie Perrier, bonjour. À mes côtés.
Bonjour.
Mídia Portes-Guérin, Nicolas Slimani, derrière la vitre du studio. Bonjour à eux. Dans quelques secondes, il sera 6h et les petits matins commencent. Et les premiers titres de la journée, c'est avec vous Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Le sommet pour signer le CETA a finalement été annulé. Cette nuit, le Premier ministre canadien Justin Trudeau n'a pas pris l'avion pour Bruxelles. Jusqu'au bout, Canadiens et Européens auront cru à une sortie de l'impasse. Mais la Wallonie, le Parlement belge régional, n'est toujours pas convaincu par le traité de libre-échange et maintient son veto. Au Venezuela, l'opposition mobilise en masse. Le centre-droit a réussi à rassembler des centaines de milliers de manifestants hier contre le président Nicolas Maduro. Il appelle à une grève générale demain pour faire monter la pression et exiger le départ du chef de l'État socialiste. Les deux camps s'accusent chacun de coup d'État, crise politique alimentée par un naufrage économique dans ce pays entièrement dépendant du pétrole. L'Italie tremble au sens propre du terme. Deux secousses ont été ressenties hier, magnitude 5,5 puis 6,1 ressenties dans le centre du pays. Le séisme n'a pas tué cette fois, seulement quelques dizaines de blessés légers, mais la péninsule reste traumatisée par le tremblement de terre à Amatrice qui avait fait 300 morts dans la même région l'été dernier. Donc, plusieurs journaux italiens ce matin titrent « Le cauchemar sans fin ». L'actualité en France ce matin, c'est la fin du démantèlement de la jungle de Calais. Le dernier car emmenant les migrants dans des centres d'accueil partout en France est parti hier soir. Notre mission est remplie et une page se tourne. C'est féliciter la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bucciau. Selon les chiffres du gouvernement, en 3 jours, 5600 étrangers ont été évacués et pris en charge. L'État compte maintenant sur le déblaiement massif de la jungle pour éviter que les derniers récalcitrants ne restent ou ne reviennent sur place, car beaucoup de candidats à l'exil n'ont pas renoncé à passer en Grande-Bretagne. Une enveloppe de 250 millions d'euros pour calmer la colère des policiers, c'est le résultat de la rencontre hier entre le chef de l'État et les syndicats, des efforts pour renouveler le matériel notamment, mais les agents de police qui manifestent depuis 10 jours et qui ne se reconnaissent plus dans les organisations syndicales ont continué de se rassembler au Mans, à Marseille ou encore à Lyon. Et puis cette alerte enfin du WWF, l'Organisation de défense des animaux, annonce ce matin dans son rapport annuel que près de 60% des vertébrés ont disparu ces 40 dernières années. Les deux tiers des espèces sauvages pourraient être décimées d'ici 4 ans si rien n'est fait pour enrayer la tendance.
Merci Amélie, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30 pour le journal complet de la rédaction.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. La nuit peut nous mener devant des portes closes, peut-être mettre en évidence des serrures et des cadenas dont personne n'a la clé. Derrière ces portes, il y a des lieux que l'on croit bien connaître, on se les dessine dans notre tête, on y retrouve des souvenirs lointains, et puis au réveil, plus rien. Plus les portes, ni ce qu'il y a dessus, ni ce qu'il y a derrière, juste nous-mêmes et notre défense d'entrée. Il est 6h03 sur France Culture et les petits matins s'ouvrent devant nous. C'est une image que nous devons garder en tête pour nous dire plus tard que ça a existé. Il n'y a pas si longtemps, il était question dans ces petits matins d'une image de Calais et d'une question qu'elle me faisait poser. Que dirons-nous de ce lieu, symbole de notre temps aux générations futures? La question se pose aussi alors que cet endroit hors réalité, hors humanité est en train de disparaître. C'est une photo aperçue en illustration d'un article publié hier dans le journal libanais L'Orient le Jour. Article qui commence par cette phrase troublante quand on y pense. C'était le plus grand bidonville de France et cet emploi de l'imparfait qui paraît irréel tant la réalité de ce bidonville est loin d'être révolue, juste déplacée, juste étalée, mais pas révolue. C'était vraiment aujourd'hui la fin de la jungle. Les mots de Fabienne Bucciau, la préfète du Pas-de-Calais, vient enfoncer le clou du décalage. L'image qui accompagne cet article enfonce aussi le clou. Une photo en couleur avec cette prise de vue qui ne nous laisse pas beaucoup de prise justement sur ce paysage qui essaie de disparaître. Trois hommes longilignes à la peau sombre, de trois quarts d'eau, jeans et pulls de couleur. L'un d'eux porte un bonnet de laine. Ces trois hommes donc se tiennent debout sur un bout de terrain qui surplombe le camp. Un camp encore rempli de petits baraquements, de bâches, de barrières, de drapeaux, de vie. Au loin, le ciel est totalement voilé par la fumée des incendies noirs qui font ressembler ce paysage déjà bien abîmé par la misère, puis maintenant par le vide, à un terrain de guerre, comme celui que les habitants du bidonville ont quitté. Des flammes qui indiquent, quoi qu'il arrive, que la violence d'un départ, de la séparation avec une terre qui voulait malgré tout dire que le bout du tunnel ne pouvait pas être loin. Des Afghans, par tradition, ont brûlé quelques biens avant de partir. Zone sinistrée, trajectoire titubante, c'était Calais. Ce sont toujours des familles ou des âmes seules qui cherchent une route libre sur laquelle marcher. Les derniers quarts sont partis hier, les rêves d'ailleurs, de paix retrouvée restent là. Les cendres mettront de toute façon du temps à symboliquement s'arrêter de fumer. Et tout comme cette fumée, les émois de François Angelier seront noirs aujourd'hui. Avec la société d'Andréou Martin, Société Noire, dernier roman où il est question de crimes mafieux dans les dédales d'un Barcelone nocturne. Mais avant cela, loin de l'Espagne, outre-Atlantique, la couleur ne change pas. Il est question dans le dernier roman, Noir, de Théo Acola, d'une adolescente disparue, c'est Idaho Babylon. Et son auteur est jusqu'à 6h25, l'invité de Toufik Hakem dans le Paso Doble des Petits Matins sur France Culture.
Paso Doble.
Paso Doble.
Jeudi, Polar.
Bonjour Théo Acola.
Bonjour.
Un Américain à Paris, voilà ce que vous êtes. Mais un Américain à Paris de longue date, puisque vous travaillez, vous résidez en France depuis 1978. Vous êtes musicien et écrivain. Cette année, vous avez publié et votre 14e album en musique, avec un double vinyle, où vous reprenez 15 chansons de votre panthéon personnel, des Clash au Velvet, en passant par Brel ou Dylan, le Nobel Dylan. Et comme vous êtes aussi écrivain, vous sortez un 5e roman, et c'est un polar. Idaho, Babylon, s'est édité dans la série noire d'Actes Sud. Comme vous, le personnage du roman Idaho, Babylon est un Américain installé en France depuis des années. Comme vous, il est originaire de Spokane. C'est une ville américaine de l'État de Washington, située entre Seattle et Portland. Je me trompe pas?
Pas tout à fait. C'est plutôt... Portland, c'est au sud de Seattle. Donc Spokane, c'est si on part tout droit vers l'est, on prend le 90 et on arrive à Spokane dans 4h30, juste avant d'arriver sur la frontière, sur l'État de Idaho.
Très bien. Et bien alors, comme vous, donc le personnage du roman est originaire de Spokane. Il est artiste, mais il n'est pas musicien ni écrivain. Lui, il est metteur en scène de théâtre. Et alors qu'il est en train de monter un spectacle avec une grande actrice du cinéma, il reçoit un coup de téléphone de sa sœur Marnie, qui l'appelle à l'aide car sa fille aînée, n'est plus revenue d'un camp de vacances organisé par des religieux. Donc c'est un polar avec une enquête, la disparition d'une jeune fille, mais aussi avec une quête. Peut-être la vôtre, en tout cas celui de la quête du personnage de votre roman, le retour au pays après 30 ans d'exil volontaire, qui permet de poser des questions sur les racines, la culture, la mémoire.
C'est juste, c'est plus ou moins ça. Vous avez dit polar plusieurs fois d'affilée, et c'est normal, étant donné que c'est aussi dans la collection Actes Noirs. Mais quand je l'ai écrit, c'était aucunement ça. C'était plutôt une suite de mes autres romans, à l'exception du 4e qui s'appelle Rakia, qui est vraiment, ça se passe en ex-Yougoslavie. Les autres tournent un peu autour de certains de ces personnages. On peut les lire dans le désordre, ou ne pas lire les autres de tout et quand même s'en sortir. Donc chacun écrit pour vivre indépendamment des autres. Mais celui-ci n'était pas écrit comme un polar, mais à fur et à mesure que ça durait, et quand je l'ai proposé à Actes Sud, j'ai dit quand même, c'est un peu un polar. Il n'y a pas énormément de violence, il y a pas mal d'armes quand même qui sont exhibées, il y a la peur de violence plutôt, la capacité de certaines personnes à produire de la violence, mais par rapport à beaucoup de polars et de beaucoup de séries noires, c'est pas si noir que
mais
ça.
Il y a une disparition, pour ne pas dire un enlèvement d'une
oui,
jeune fille.
C'est vrai, c'est une espèce d'intrigue.
Et est-ce que vous leur avez dit que c'était aussi un peu votre histoire que vous essayez de mettre en parallèle avec le personnage que vous avez inventé?
Moi, je pense qu'on finit par deviner qu'il y a pas mal de liens avec ma propre biographie. Je pense que les cadres dans mes livres sont souvent complètement autobiographiques. Plusieurs personnages sont complètement calés sur des gens que j'ai connus. Et en particulier, il y a le pasteur évangélique qui est un peu le méchant un peu de l'histoire, qui est peut-être lavé un peu le cerveau de la fille, soit kidnappée, soit partie en fugue. Il s'appelle Tommy, ou Tom dans l'histoire. Et il est totalement calé sur un de mes meilleurs amis d'enfance.
Ouais, alors justement, on va en parler. Mais pour ne pas enlever le plaisir au lecteur d'Idaho Babylon, on peut dire qu'il y a effectivement deux pistes sérieuses. Est-ce que c'est un embrigadement par une secte religieuse, ou est-ce que cette jeune fille est partie avec un raciste et qu'elle est dans un autre monde? Mais en tout tout cas, ces deux mondes se retrouvent pour dessiner un peu l'Amérique des Tea Party, l'Amérique de Donald Trump. Est-ce que c'était aussi votre envie, Théo Acola, de parler de cette Amérique-là, cette Amérique qu'on découvre justement en ce moment avec les propos et la force qu'a un homme comme Donald Trump?
Mais pas Trump en particulier, pas ce qui se passe aujourd'hui. Mon livre se passe pendant les élections de 2012. Mais je pense que je parle de cette espèce de mensonge à répétition, pour ne pas dire lavage de cerveau, qui produit cette aile chrétienne extrême, fundamentaliste, comme on dit, ou vous diriez peut-être intégriste, les évangéliques, que peu importe ce qu'on leur raconte, peu importe ce qu'on leur montre, ils vont quand même puiser, soi-disant, la vérité dans la Bible. Et c'est donc, à la limite, c'est un reflet aussi des islamistes en France. Et justement, le fait de... C'est comme un miroir un peu. Parfois, il y a des jeunes filles qui se font embrigader en France, et parfois, c'est peut-être sous l'influence d'un garçon, ou peut-être pas, on ne sait pas exactement. C'est le même genre de flou. Pour moi, c'est ça qui se passe aux États-Unis, et c'est un peu une espèce de lavage de cerveau en bande, que je trouve assez... inexplicable, mais c'est grâce à ce lavage de cerveau et ce refus de science, de la science, ce refus de fait, tout bêtement, qu'on est capable d'avaler aujourd'hui le trumpisme. Donc, je pense que, quand je pense à l'église de cet ami d'enfance, parce qu'effectivement, cet ami d'enfance qui a pas mal inspiré le personnage de Tom, il a son propre église, à mon avis, dans leur ensemble, malgré leur puritanisme, etc., ils vont voter pour Trump, qui est le monde à l'envers, étant donné même les qualités morales que ces gens-là sont c'est, ou les valeurs familiales, comme on dit, que cet homme, c'est le contraire de ça, mais ils vont voter pour lui parce qu'on leur raconte, et ils se racontent des mensonges à répétition à propos, par exemple, de l'avortement et l'homosexualité, les obsèdes. Ils sont pas capables de tout simplement accepter qu'on est ainsi fait si on est homosexuel. Non, ils continuent à lutter comme ça, et ça, il y a un reflet de ça aussi dans le livre. Et c'est au bout d'un moment, on les regarde un peu et on dit, mais pourquoi ça vous obsède à un tel point?
L'autre obsession, c'est une Amérique blanche. Ils se battent aussi pour ça, les personnages de votre roman Idaho, Babylone, Théo Acola.
Oui, mais pas le personnage de Tom, évangélique. Ouais. Ce que j'essaie de montrer, c'est peut-être qu'il y a un lien entre les gens comme lui et les gens qui sont effectivement presque Ku Klux Klan dans leur optique, dans leur manière de voir le monde.
À vous entendre parler comme ça, Théo Acola, on a l'impression que c'est un polar très fort, très sérieux, très poignant, mais pas du tout. Il y a beaucoup d'humour, comme si à un certain moment, vous vouliez prendre une distance pour mieux raconter cette Amérique-là.
Merci de l'avoir relevé. Effectivement, j'espère qu'il y en a. Parfois, je ne sais pas. Parfois, parce que justement, c'est présenté comme un polar. Je pense que les parties comiques est facilement aussi importante, sinon plus importante même que le parti intrigue et série noire.
Alors, bien sûr, je vais vous poser la question que tout auteur préfère ne pas entendre, c'est-à-dire quelle est la part biographique, ou du moins la part réelle. Est-ce que vous êtes vraiment retourné aux États-Unis? Est-ce que vous êtes vraiment retourné dans votre ville qui est Spokane, parce qu'il se trouve que c'est la ville de votre roman, mais c'est aussi votre ville natale, Théo Acola. Est-ce que ce roman, ce polar, est né après un voyage, un retour à ce pays?
Il y avait un grand écart pour moi, mais moins grand que l'écart de Peter Fallenberg.
Donc non. Le personnage, donc.
Oui, oui, c'est moins important et c'est moins un choc particulier, et par chance et heureusement. Ma petite sœur, j'ai effectivement une petite sœur après que ma mère et père ont fait 4 garçons, ils ont fait une fille. Mais sa fille n'a pas été enlevée encore et elle ne pratique pas non plus le chrétianisme évangélique non plus. Donc ça, c'est plutôt inventé.
Par contre, inventé parce que vous l'avez vu autour de vous.
Voilà, j'ai vu ça en particulier. J'ai un couple d'amis d'enfance qui étaient là-dedans. Et justement, je me cale pas mal sur eux avec les créations de la petite sœur de Peter Fallenberg et son mari. J'ai des amis un peu comme ça qui étaient là-dedans et qui ont réussi à s'en sortir. Et parfois, quand ils en parlent, c'est comme si c'était un culte, alors que c'est une église. Mais c'est une église évangélique. Il faut aussi dire qu'il y a des degrés différents dans les églises évangéliques, mais l'église qui a monté mon ami d'enfance est assez extrême. Et J'ai assisté au service. On peut voir ce qu'ils racontent sur le web. C'est filmé et c'est enregistré. Et c'est que, bon, je me répète, je radote, mais c'est comme une espèce de lavage au cerveau. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, je pense.
À quoi ressemble Spokane? C'est quoi? C'est une grande ville?
Je l'ai décrit en détail, en fait. On pourrait penser que je l'aime pas beaucoup, que l'auteur de ce livre n'aime pas beaucoup cette ville. En fait, je pense que j'ai la chance d'avoir grandi là. C'est parce que pour moi, c'est plus ou moins paisible. Et surtout, la nature est très proche. La ville en soi, c'est de la taille de Rennes, par exemple, 200 000 habitants. Réactionnaire, au fond, plutôt républicain, un peu libertaire, un peu... On voudrait se débrouiller tout seul, que le gouvernement fédéral ne devrait pas se mêler à ce qu'on fabrique ici. Et surtout, autour, c'est plus extrémiste. La ville a quand même des îles un peu plus éclairées. Et c'est plutôt sympathique de grandir là et à la limite se faire ses dons politiquement, ce que j'ai fait. Mmh. Et ensuite partir. On a envie de partir parce qu'on veut aller à Seattle ou éventuellement San Francisco, ou mon cas à moi, c'était plutôt New York et par la suite Europe avec Londres et ensuite Paris.
Voilà. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez quitté les États-Unis et donc Spokane?
Ça a commencé en 78. Avant ça, j'avais vécu et fait des études à Londres pendant un an. Et je suis retourné avec mon deuxième groupe, Passion Fodder, en 89, vivre à Los Angeles. Et je suis resté là-bas pendant 6 ans.
Musique, toujours. La musique vous accompagne. Théo Acola, vous avez même sorti un album, un 14e album, où vous reprenez aussi bien Brel que Dylan, aussi bien le Velvet que les Clash. Ben, on va écouter Bob Dylan.
In the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in the trench coat, bad child, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better jump down the alleyway, looking for a new friend. The man in the coonskin cap in the big pen wants $11 bills, but you only got 10. He talks sweet foot, face full of black soot. Talking at the heat, put plants in the bed, but the phone stopped anyway. Maggie says the men say they must bust an early May. Orders from the DA. Look out, kid, no matter what you did. Walk on your tiptoes, don't try no dose. Better stay away from those who carry around a fire hose. Keep your clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows.
Alors Théo Acola, puisque vous reprenez Bob Dylan, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans cette chanson.
Oh, c'est du Dylan. Il n'y a pas énormément de sens dans ce texte-là. Et c'est ça qui est drôle avec Dylan parfois. Même sans savoir exactement ce qu'il voulait dire, on est quand même touché par l'alignement des mots. En particulier avec ce morceau, je le présente un peu comme un des tout premiers rap. Pour moi, c'est l'ancêtre du rap, cette chanson. Je le pense très fort. Donc, je voulais le faire autrement que lui, autrement que les autres qui l'ont repris. Ricky Lee Jones, par exemple, l'a repris assez joliment. Moi, je voulais le faire, comme vous avez entendu, un peu hip-hop. Je voulais vraiment exploiter le groove, mettre un groove de base et que ce soit plutôt chanté, lancé de manière plus rap en hommage pour moi un des premiers rap.
Alors, mais quand même, j'insiste, il s'agit de quoi dans ce morceau?
Oh, c'est vraiment, sérieusement, c'est de la poésie. Il y a des chansons de Dylan et je pourrais très facilement dire de quoi il s'agit. Une chanson d'amour, une chanson de colère, une chanson d'aliénation sociale. Mais là, c'est un délire un peu gratuit, même parfois. Si je vous traduis littéralement, ça n'a carrément pas de sens.
Bon, alors, mais vous voulez où je vais en venir, Théo Acola? Je suppose que vous êtes pour l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan.
Je suis partagé.
Vous êtes partagé?
Oui, je suis partagé. Évidemment, peut-être c'est la personne de la musique de ma jeunesse grâce à laquelle peut-être j'ai commencé à faire la musique plus tard, assez tardivement dans la vie. Hendrix et Dylan comptaient terriblement. J'ai vu Hendrix quand j'avais 12 ans sur scène, c'est mon premier concert rock. C'est vitalissime. Dylan, c'est vitalissime par rapport au texte. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que Hendrix qui reprend un morceau de Dylan comme All Along the Watchtower? Mais donc j'étais ému. Quand j'ai vu ça, j'étais tout à fait ému, puisque, comme tout le monde, je suis plus ou moins ce qui fait le prix Nobel. De voir Dylan là, ça me touche. Après avoir été ému, je me pose quand même la question, qu'est-ce que les textes de Dylan, donc la littérature de Dylan, qu'est-ce que ça vaudrait vraiment si c'était pas avec musique? Et je pense que ça vaut moins. Mais c'est pas du tout une critique de dire ça. Donc, à la limite, on est en train de donner un prix Nobel de la littérature à la chanson. Et qui n'est pas le pire des choses. Mais si on prend un texte comme ça et c'est pas sur la musique et avec la voix de Dylan, pour moi, ça n'a pas autant de puissance et de qualité.
Et comme vous êtes venu ce matin avec sous le bras un exemplaire du New Yorker, ça veut dire, Théo Acola, que vous êtes toujours en contact avec ce qui se dit, ce qui s'est dit aux États-Unis. Est-ce qu'en Amérique, il y a eu le même débat autour de l'attribution du Nobel à Dylan? Est-ce qu'il y a eu des pour, des contre, comme en France?
Vous dites en contact, je dirais plutôt obsédé actuellement à cause des élections. Je ne sais pas trop. Je crois qu'il y avait des reflets de... Oui, sans doute, il y avait des reflets un peu semblables. Mais j'ai vu, bon, il est anglais, mais anglais d'origine indienne. Salman Rushdie, je sais qu'il était ravi et emballé. J'ai pas trop suivi le débat, en fait. Parce que peut-être j'ai la prétention d'en savoir plus que pas mal des gens du monde littéraire savent sur lui. Mais ça, c'est les avis des uns et des autres m'intéressent sur ce sujet-là. Pas tant que ça. Ça aurait été Joyce Carol Oates et on n'aurait été pas content parce que ce n'était pas je sais pas qui. Les avis des uns et des autres m'intéresseraient plus. Dylan, c'est à nous. Et c'est pas peut-être aux autres, et même si ça touche, bien sûr, beaucoup d'auteurs, je sais pas, c'est personnel, Dylan.
Vous voulez dire, Théo Acola, que vous étiez obsédé par la politique américaine en ce moment?
Je l'ai toujours été, mais...
Oui, mais sauf qu'à l'heure qu'il est, c'est plié. Je crois que le danger Trump n'est plus d'actualité, ou vous dites qu'on sait jamais...
Non, je pense que Clinton va gagner. Il y a un nouveau danger. C'est très sale jeu. Qui joue Trump. Il dit l'élection s'est truquée. Deux choses. Il parle des médias qui ont été montés comme s'ils étaient payés par Hillary Clinton pour le casser, lui. Et deuxièmement, il dit c'est au lieu où les gens vont voter, on va vous voler ce vote. Il va avoir fraude. Et vu qu'encore, je dis, les mensonges à répétition marchent bien avec, malheureusement, 38% de la populace aux États-Unis, ça reste une obsession aujourd'hui, puisque c'est très dangereux ce qu'ils racontent.
Est-ce que vous irez voter la semaine prochaine, Théo Acola?
J'ai déjà voté par correspondance. On peut voter assez facilement de loin.
Ouais. Est-ce que vous regrettez d'avoir laissé tomber votre engagement politique aux États-Unis?
Oui. On fait des choix dans la vie. Il y a plusieurs voies que j'aurais pu prendre. L'engagement politique, même la pratique politique. J'ai gagné ma vie même brièvement à une certaine époque, dans les années 70, en travaillant en plein temps, par exemple, avec le comité américain pour l'Espagne démocratique. J'étais formé comme organisateur politique et ça me manque, oui. Mais on ne peut pas tout faire. Si j'étais Springsteen, à la limite, je pourrais me rendre plus utile à la campagne de... Clinton, comme il fait, ou comme il avait fait aussi pour Obama, ça serait bien. Mais en tant qu'organisateur, j'ai pas la force et l'énergie et surtout le placement géographique pour être un organisateur actuellement.
Alors, pour revenir à votre polar, Idaho Babylon, est-ce que, comme le personnage central du livre, Peter Fallenberg, ce retour aux États-Unis, c'est peut-être le début de retrouvailles avec ce pays que vous avez quitté il y a une trentaine d'années?
En fait, ça fait presque chaque été depuis le début 2001 que j'y vais. Chaque été, je passe presque 2 mois. Je tente de passer 2 mois là-bas, plutôt en planque maintenant, à la montagne, la chaîne des Cascades, versant ouest, où c'est là où j'écris le mieux et le plus. Et c'est là aussi où je pêche, c'est vraiment un cliché. Je pêche à la mouche, la truite.
Et vous écrivez toujours en anglais, pourquoi? Alors que vous parlez très bien français, que ça fait longtemps que vous êtes en France.
Je parle pas trop mal le français, mais pas assez pour écrire aussi bien en français que j'écris en anglais. Je n'aurai jamais votre langue à 100%, et j'ai encore l'anglais à 100%.
Et c'est à moi qui dis ça. Alors, Idaho Babylon, pourquoi ce titre? On terminera là-dessus, Théo Akola.
Il faut presque lire le livre pour savoir. Il y a Babylone est évoqué.
Ouais.
Et chez les évangéliques, on pense un peu au roi, c'était Balthazar, qui devait perdre sa place. On le compare à Obama. Donc les évangéliques, ils ont toujours des prévisions, parce qu'ils ont des prévisions grâce à la Bible. Quand les prévisions ne sont pas réalisées, ils trouvent toujours une explication pourquoi Dieu les a laissés tomber, mais que Dieu va reprendre l'affaire en main.
Et ça se passe à Spokane, donc. Et le nom Spokane vient du nom d'une tribu indienne, et ça signifie « fils du soleil ». Je vous remercie d'être passé, Théo Akola. Oh, fils du soleil, merci d'être passé. On se retrouve demain pour parler bande dessinée, pour parler de l'histoire de la musique électronique. Et j'aurai Émilie comme invitée. David Blot, c'est à vous. Les petits matins de France Culture continuent. Merci Théo Akola.
C'est moi.
Entretien de Toufik Hakem réalisé par Thomas Duterte que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des petits matins. Et maintenant, on change juste de pays, mais on reste dans le polar. C'est l'heure de l'émoi quotidien de François Angelier.
Les émois, François Angelier.
Bonjour François.
Bonjour Émilie.
Vous nous parlez aujourd'hui de la société noire d'Andreu Martin.
Oui, société très noire, société espagnole. Alors Andreu Martin, effectivement, publie chez Asphalt. Cette société noire, alors Asphalt, c'est une très bonne maison, une des maisons qu'on peut recommander vraiment, comme Gallmeister, Mirobol ou Agulot, quand on est en quête justement de nouveaux filons, de nouvelles filières de la sensibilité noire et policière. Et effectivement, Andreu Martin, c'est un des grognards du polar espagnol. Avec Montalban et Ledesma, c'est un monsieur qui a travaillé à peu près dans tous les sens. Il est scénariste de BD en Espagne, en France et en Allemagne. Il a même fait des livres pour enfants. C'est un dramaturge. Et puis surtout, il a une très grosse production de romans noirs qu'on connaît assez peu en France, parce que 4 ou 5 volumes, pas plus, ont été traduits, notamment à la série noire, au Seuil. Il a même fait un Poulpe. Et à quoi a-t-on affaire avec cette société noire? Je dirais que c'est un petit peu une mutation du polar espagnol, et surtout du polar barcelonais, puisque c'est un catalan, Andreu Martin. Alors, de quoi s'agit-il? De manière traditionnelle, quand on lit Ledesma et notamment les aventures de Mendes, on a des vieux flics extrêmement madrés, extrêmement fondus dans le décor, qui connaissent par cœur tous les patrons de bistrot, qui tutoient les putes dont ils sont également clients, qui fréquentent les ruelles, les impasses. C'est des gens qui sont vraiment des
garçons.
Ça, il faut y arriver.
Vous êtes sur France Culture.
Oui.
Oui, mais il parle du Barrio Chino.
Voilà. Oui, merci Jacques Meunier de venir à ma rescue. Donc on a une humanité policière qui est vraiment intrinsèquement liée, paysanne presque, dans Barcelone. Et avec cette société noire d'Andreu Martin, comme avec le dernier Ledesma, on assiste à quelque chose d'un dépaysagement. On dépayse totalement le polar, puisque le polar n'est plus vraiment de terroir, il se mondialise. Et ce qu'on voit dans cette société noire, ce sont des flics de Barcelone qui ont affaire non plus au traditionnel milieu barcelonais et espagnol, mais d'abord aux triades. Alors au départ, ils veulent pas y croire. On leur dit, mais faites attention, tel crime atroce qui vient d'être commis, c'est véritablement la mafia chinoise, sont les triades. On dit, donc, triades, vous plaisantez, pas de ça chez nous, on connaît pas. Et effectivement, on va voir que c'est une implantation de plus en plus ramifiée, de plus en plus en profondeur, des triades chinoises, mais il y a également les maras, c'est-à-dire les bandes et les gangs d'Amérique centrale qui s'implantent à Barcelone avec le tatouage, avec tout le folklore que l'on connaît, et puis également la prostitution qui, elle, vient de l'Est. Donc, ce qui est fort dans cette société noire qui raconte donc l'histoire de l'inspecteur Canias qui enquête sur des crimes atroces et surtout la vie de Liang qui est un hispano-chinois, c'est cette espèce de décadrage permanent de la criminalité espagnole qui évolue d'une criminalité, je dirais, en cercle clos, sous cloche un petit peu, de terroir, je le répète, vers une sorte de mondialisation du crime. Et Andreu Martin nous raconte ça avec un lyrisme, une violence et une noirceur tout à fait exceptionnelle. Je recommande donc de te Société Noire, paru aux éditions Asphalt.
D'Andreu Martin. Merci beaucoup François. Merci. Tout va bien Thierry Garcin, vous êtes remis.
Je vois que François est comme surtout remis de ses émotions, qu'il emploie un vocabulaire franco-culturel.
Dorénavant, je vous soumettrai mon lexique, mon cher Thierry, et vous cocherez les mots interdits.
Absolument. C'est notre CSA, mon bureau, Thierry Garcin.
S'il vous plaît,
à 5h. Les petits matins se poursuivent avec, dans un instant, le journal d'Amélie Perrier, puis à 6h40, le journal des idées de Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie.
Vous nous parlerez de la siliconisation des esprits.
Oui, comment l'esprit de la silicone
Silicon Valley menace de formater nos vies en faisant usage et commerce de toutes les traces que nous laissons à droite, à gauche, sur le net.
Ce sera tout à l'heure à 6h40. 6h45, les enjeux internationaux nous mèneront en Espagne, Thierry Garcin.
Voilà Émilie Chaudet.
Tout avec près de, la du nouvelle... terrain de François Angeli. En
fait. Absolument, ceci sans rapport avec cela. Et donc l'Espagne, la nouvelle donne, et on va vers un nouveau gouvernement, Rajoy.
C'est moi qui fais des rapprochements un peu capillotractés parfois. Et à 6h57, place à Guillaume Erner et des matins consacrés à deux dossiers, les chiffres du chômage. Puis à 8h40, Brita Haji Hassan, le président du conseil de la ville d'Alep, sera avec nous sur France Culture.
Il s'autoproclamait menteur ou imposteur. Il était en réalité un sublime révélateur de société. Philosophé avec Fellini dans Les nouveaux chemins de la connaissance d'Adèle Van Rett. De la Dolce Vita à Casanova, de Amarcord à 8,5, revisitons l'œuvre du maestro. Les nouveaux chemins de la connaissance, philosophie avec Fellini, toute cette semaine sur France Culture à 10h. À écouter aussi sur franceculture.fr.
J'ai dit 8h40, mais c'était 7h40. Brita Haji Hassan, le président du conseil de la ville d'Alep, donc sera sur France Culture. Mais en attendant, il est 6h30. Bon réveil si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal d'Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Ils ne sont pas venus à l'Élysée pour rien. Les syndicats de policiers sont repartis hier avec 250 millions d'euros de promesses, surtout du matériel neuf, plus moderne, des commissariats rénovés et une réorganisation de leurs tâches également. Un plan pour calmer le malaise des agents. Depuis 10 jours, ils manifestent partout en France. Un ras-le-bol exacerbé depuis l'agression d'une patrouille à Viry-Châtillon au début du mois. Une réponse satisfaisante de l'État donc, selon Yves Lefebvre, le secrétaire général d'unité SGP Police.
Le Parlement va pouvoir étudier l'anonymisation des policiers, qui est une revendication essentielle pour notre syndicat, et ce depuis le massacre de Magnanville. Autre point important, qui était aussi une de nos revendications essentielles et une des revendications essentielles de nos collègues sur le terrain, nos collègues de la base, et grade des gardiens et adjoints de sécurité, c'est aujourd'hui l'alignement des peines en matière d'outrage à l'endroit des agents de la force publique, alignement sur celles prononcées lorsqu'il s'agit d'outrage aux magistrats. Un point très important aussi, c'est l'ouverture des travaux sur la légitime défense. Alors si aujourd'hui l'évolution de la légitime défense n'a pas été actée, pour autant a été actée aujourd'hui, le début de travaux, en l'occurrence là aussi avant la fin du mois de novembre, donc des annonces très fortes avant la fin du mois de novembre. J'ai dit, il y a des gestes forts, il y a un budget, il y a des avancées. Ça serait, je crois, totalement populiste et poujadiste de ne pas prétendre le contraire. Il y a un calendrier fixé. Maintenant, nous allons consulter notre base. Reste en suspens quand même cette problématique grave qui divise aujourd'hui les services de police à tous les niveaux, la problématique de la politique du chiffre et de la course aux résultats. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête la méritocratie là-dessus. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a des points intéressants à poursuivre.
Yves Lefebvre, syndicaliste unité SGP Police, satisfait donc. Mais la particularité du mouvement depuis 10 jours, c'est que la base ne répond plus aux syndicats et manifeste hors de tout cadre syndical. Le plan annoncé hier n'a d'ailleurs pas convaincu ses policiers. Des cortèges se sont formés à Lyon, Marseille et au Mans. François Hollande, qui juste avant de recevoir les policiers, a rendu hommage à son prédécesseur François Mitterrand, discours au musée du Louvre à Paris, pour le centenaire de la naissance de l'ancien président socialiste. L'occasion de parler de lui, de parler de soi et de se projeter dans l'avenir. Ludovic Piétenu a suivi ce rendez-vous de toute la Mitterrandie.
François Hollande est le deuxième président socialiste sous la Ve, alors il s'inspire du premier.
La gauche. Gauche qui prétendait non seulement accéder au pouvoir, mais y rester.
Discours portrait de François Mitterrand et en creux discours autoportrait.
Faut-il rappeler ce que, de son vivant, François Mitterrand a pu subir de critiques, de contestations, d'outrages, d'outrances.
Alors il forme un vœu pour lui-même.
Ce qui va compter, c'est ce qui va rester.
Et là encore, il faut lire entre les lignes. Hollande réitère un appel à ceux qui seraient tentés de jouer personnel.
À la gauche, à toute la gauche, il laisse un testament décisif. Se rassembler pour gouverner. Et gouverner pour réformer et changer le pays.
À ses amis, il dit en substance « comptez sur moi ». Et si, comme il l'a fait remarquer de très nombreuses fois, François Mitterrand parlait de volonté, François Hollande a démontré qu'il en était doté et qu'il croyait tout à fait la victoire possible.
Mission accomplie pour la préfecture du Pas-de-Calais. La jungle a été évacuée en 3 jours. 5600 étrangers sortis du bidonville et emmenés dans les centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France. Les opérations de déblaiement vont se poursuivre pour dissuader ceux qui seraient tentés de revenir dans le campement. Le dialogue est rétabli entre les journalistes et la direction d'ITL, mais toujours pas de sortie de crise en vue. La rédaction demande le départ de l'animateur Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs, accusé par l'équipe de ternir l'image de la chaîne. Elle demande aussi une charte éthique pour garantir leur indépendance vis-à-vis de leur principal actionnaire, Vincent Bolloré. On en vient à cette question, comment parler des attentats dans les médias? Question que s'est posée le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, vient de publier des recommandations pour les télés et les radios. Catherine Pétillon s'est penchée dessus.
Comment présenter les auteurs d'actes terroristes? Quelle conduite adopter sur le terrain? Quelles précautions prendre? Sur toutes ces questions, le CSA ne cite aucun des manquements qu'il avait constatés dans le traitement des attentats par les radios et télévisions, mais formule une série de recommandations, comme la mise en place d'une cellule de crise spécifique dans les rédactions en cas d'attentat, afin de renforcer le contrôle et la validation des informations diffusées. Les chaînes d'infos en continu sont-elles invitées à envisager la diffusion en léger différé pour rendre ce contrôle possible? Parmi les enjeux pointés, ne pas gêner l'action des forces de l'ordre ou de la justice. Pour cela, le CSA préconise d'éviter les prises de contact avec les terroristes ou les otages. Autre pratique constatée, les interviews de personnes visiblement en état de choc. Le CSA rappelle ici l'état de vulnérabilité des victimes et de leurs proches. Le régulateur revient enfin sur cette question qui fait débat, y compris au sein des rédactions. Faut-il donner l'identité des auteurs d'attentats? Sur ce point, le CSA estime qu'il n'y a pas de réponse unique satisfaisante à chaque média de choisir. Il appelle seulement à la plus grande vigilance dans la manière de relater leur parcours afin de se prémunir des phénomènes de mise en valeur, voire de glorification. Ce guide est le résultat de rencontres avec les médias, les associations de victimes, des experts et le procureur de la République, François Molins.
6h35 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier, et le massacre se poursuit en Syrie.
Dans la province d'Idlib, c'est dans le nord-ouest du pays, des raids aériens ont été menés contre une école. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués, information de l'UNICEF. L'ONG dénonce une tragédie et un possible crime de guerre. Et dans les matins, aujourd'hui, à partir de 7h40, Guillaume Erner vous emmène à Alep avec un invité exceptionnel, le maire de la ville martyr. Il s'appelle Brita Agi Hassan. Il nous racontera le quotidien et les souffrances endurées par sa ville et ses habitants. En Irak voisin, l'étau se resserre autour de Mossoul, deuxième ville du pays, tenue par les djihadistes de Daesh depuis 2 ans et demi. Les milliers de soldats irakiens et les combattants kurdes de Peshmerga, appuyés par la coalition internationale, ne sont plus qu'à quelques kilomètres des faubourgs. Ils ont déjà libéré des villages alentours, comme Badana. C'est le reportage de notre envoyé spécial sur le front irakien, Philippe Randé.
En descendant de la voiture, Hadji ose à peine poser la pointe du pied sur les gravats de son village. Au bout de quelques mètres, appuyé sur sa canne, il s'arrête devant 2 casseroles rouges remplies d'explosifs posées à côté d'une carcasse de voiture calcinée.
Ça, c'était ma maison. Regardez, tout est par terre. Daesh avait construit à l'intérieur 2 usines pour fabriquer des explosifs. Comment exprimer ma peine? C'était toute ma vie. C'est encore dangereux. Tout est piégé. Aucun des mineurs n'est là. Ni les Peshmerga, ni l'armée irakienne. Daesh est sûrement toujours caché sous terre. Là, il y a un tunnel. Et puis ici, et là-bas. En plus, on vient d'entendre une explosion proche. Un tank. Mais je ne sais pas où il est.
Finalement, Hadji repartira avec l'arrière de son pick-up vide, sans savoir s'il reste quoi que ce soit dans les décombres de sa maison. Sur le chemin du retour, Saïd, son ami, freine brusquement en voyant un cadavre sur le bord de la route.
Je ne sais pas sa nationalité, c'est un djihadiste. Regardez, ses 2 jambes sont coupées. C'était un kamikaze, il a toujours la bombe sur lui, c'est dangereux. Ne nous approchons pas trop près du corps.
Comme Badana, des dizaines de villages ont été repris par les forces de sécurité depuis le début de l'offensive. Comme à Badana, le retour des civils risque de prendre de longues semaines.
Le reportage de Philippe Randé, envoyé spécial à Mossoul avec Raymond Albouy aux moyens techniques. Et puis le CETA en mauvaise posture, le chef du gouvernement canadien n'a pas pris l'avion finalement cette nuit pour Bruxelles. Le sommet pour signer le traité de libre-échange avec l'Union européenne prévu aujourd'hui est annulé. La Wallonie continue de bloquer de son veto la ratification du texte. On termine par le temps de ce jeudi. Ce sera d'abord gris, puis ensoleillé, nous dit Météo France. Il fait froid ce matin, 4 à 7 degrés en général. Et cet après-midi, on attend 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Paris, 19 à Toulouse, 22 à Marseille. 6h38, merci d'être sur France Culture. Sitôt, prochain journal à 7h avec Sophie Delpont. Avant cela, on s'occupe de votre réveil. Émilie Chaudet, aux manettes des petits matins. Et c'est votre vie de presse, Émilie.
Merci Amélie. La presse qui s'attarde encore et toujours ce matin sur les difficultés et les échecs de François Hollande, un président de moins en moins présidentiable. Le Figaro consacre un encart de sa une sur le sujet. 2017, 2. Hollande persévère malgré le malaise au PS. Le journal revient sur les mots du chef de l'État hier lors d'un hommage consacré à l'ancien président François François Mitterrand, il était la gauche qui prétendait accéder au pouvoir et y rester. Fin de citation. Même observation du côté de l'opinion en bandeau de une, Nicolas Béthou se livre à l'exercice de politique fiction. Nous sommes le 12 août 2054 et l'on se souvient d'un certain 26 octobre 2016 où François Hollande avait fait, je cite, un discours plein de sous-entendus pour, à travers la figure de Mitterrand, vanter son propre rôle de chef de l'État. Le journaliste conclut que décidément, c'est une manie bien française de trouver avec le temps quelques qualités, même à ceux qui ont surtout brillé par leur impopularité. Et de popularité ou d'impopularité, il en est question dans, là aussi, cet encart de une du Parisien. 2017 tourne à mission impossible pour le président. La réélection tiendrait de l'exploit sportif, note le journal. Le Parisien, aujourd'hui en France, qui s'appuie sur les chiffres des différentes cotes de popularité des anciens présidents, 6 mois avant leur réélection. 60% pour François Mitterrand en 87, 57% pour Jacques Chirac en 2001, 24% pour Nicolas Sarkozy en 2011 et Monsieur 4%, tel que le Parisien surnomme François Hollande après ce sondage Ipsos-Cevipof, taux de satisfaction dont est crédité le président. Libération de son côté, titre sur Hollande et la banlieue, le rendez-vous manqué. Le journal revient sur le bilan, je cite, pas très rose du gouvernement, 4 ans après un large vote socialiste dans les cités. Et aujourd'hui, certaines des promesses phares de François Hollande, comme celles portant sur le contrôle aux faciès ou sur le vote des étrangers, n'ont pas été tenues. Et pourtant, malgré ce tableau, François Hollande n'a toujours pas officiellement renoncé à sa candidature. Et c'est précisément ce dont vous allez nous parler, Jacques Munier, en prenant le cas outre-Atlantique est très éloigné de nous de Donald Trump, ou comment des candidats qui n'ont aucune chance peuvent toutefois se maintenir en lice et y croire eux-mêmes pour tout le monde. C'est l'heure du journal 10 idées. Il est 6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
À l'approche de l'élection américaine, Joseph Stiglitz veut tirer les leçons de l'épisode Trump.
Oui, le prix Nobel d'économie en fait le constat dans les échos de toute l'histoire des présidentielles. Clinton fait partie des candidats les plus compétents et les mieux préparés que les États-Unis n'aient jamais eu, tandis que Trump est l'un des moins compétents et des plus mal préparés. Et il a pu rester en lice malgré un comportement qui, dans le passé, aurait annihilé toutes les chances d'un candidat. Alors se demande-t-il pourquoi les Américains jouent-ils à la roulette russe ? Un élément de réponse réside dans la situation financière dégradée de nombreux Américains. Le revenu médian des salariés à plein temps est inférieur à ce qu'il était il y a 42 ans. Et il est de plus en plus difficile aux personnes peu éduquées d'obtenir un emploi qui leur garantisse un salaire décent. D'où l'audience du candidat milliardaire quand il s'en prend à la situation économique. Sauf qu'il y a erreur à la fois sur le diagnostic et sur le remède. Globalement, depuis 60 ans, les performances de l'économie américaine sont bonnes. Le PIB a été multiplié presque par 6. Mais les fruits de la croissance ont bénéficié à un relativement petit nombre de personnes fortunées, des gens comme Trump, dont la fortune tient en partie à des baisses d'impôts massives qu'il veut étendre et accroître. L'autre erreur tient à la guerre commerciale que Trump voudrait déclarer à la Chine, au Mexique et à d'autres partenaires commerciaux des États-Unis. Cela appauvrirait tous les Américains, commente l'économiste, et serait un obstacle supplémentaire à la coopération internationale indispensable face à des problèmes mondiaux cruciaux tels que l'État islamique, le terrorisme international ou le réchauffement climatique.
Et aux antipodes de ce conservatisme étroit, il y a une autre menace, celui du technolibéralisme, selon le philosophe Éric Sadin, Jacques.
Oui, moins voyante comme menace, mais plus diffuse, mais combien plus efficace selon lui, de la siliconisation des esprits à ce qu'il appelle la silicolonisation du monde. Titre de l'essai qui paraît aux éditions L'Échappée, il y aurait la distance entre le nationalisme populiste gonflé à l'hélium et la mondialisation béate de l'empire disruptif des big data, tout en restant dans le même territoire du Texas replié sur lui-même à l'horizon radieux du Pacifique, la Silicon Valley. Le spécialiste des questions numériques explique dans Les Inrecuptibles ce qu'il désigne sous le terme de technolibéralisme. C'est le fruit de l'alliance entre la recherche technoscientifique, le capitalisme conquérant et les politiques libérales, une nouvelle industrie de la vie qui tire profit de chacun de nos gestes. La collecte des traces que nous laissons à chaque navigation innocente ou marchande sur le web produit une architecture virtuelle mais fonctionnelle pour toute une économie des données qui ouvre une infinité de fonctionnalités dégageant un horizon économique virtuellement inépuisable qui participe de l'enthousiasme planétaire à son égard. Et si l'on y prend garde, les objets connectés ajouteront à cette collecte généralisée des données de plus en plus intimes. Corps, miroirs, matelas, biberons, vêtements, véhicules, chaînes de production dans les entreprises, entreprises qui fourniront à l'industrie de la vie gérée par l'intelligence artificielle les moyens de nous commander chaque fois plus étroitement. C'est cela la silicolonisation, la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation automatisée de secteurs toujours plus nombreux de la société. L'illusoire protection des données personnelles n'est qu'un paravent décoratif. Pour Éric Sadin, la véritable résistance passe par le refus de l'achat d'objets connectés.
Éric Sadin qui pointe également les conséquences déjà visibles dans le domaine du travail.
Le joyeux feu d'artifice disruptif pourrait défaire en moins d'une génération nombre d'acquis issus de luttes menées durant des siècles. Le mensuel Sciences Humaines consacre un grand dossier à cette question. Comment allons-nous travailler demain? Le développement des plateformes numériques favorise l'essor du travail à la demande et donc la précarité. C'est ce qu'on appelle désormais l'ubérisation. Le fait que les plateformes de l'économie numérique viennent concurrencer les acteurs traditionnels de tous les secteurs de l'économie en géolocalisant la demande et l'offre par le biais d'Internet et en les mettant en relation directe, ces plateformes contournent les règles, notamment celles du droit du travail qui protège les salariés. On l'a vu pour les taxis, on le voit pour les coursiers, on le verra pour les plombiers ou l'ensemble des artisans. Le revers de la médaille, plus de protection sociale ni de congés payés. En l'occurrence, les profiteurs ne sont pas les payeurs, charges et impôts connaît pas.
Merci Jacques Munier et à demain pour un nouveau journal des idées. Il est 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Choupet.
Et aujourd'hui, une question, quelle sera la nouvelle donne politique en Espagne?
Voilà, avec une actualité assez lourde, notre invité Benoît Pellistrandi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Alors, si j'ai bien compris, d'ici à dimanche au plus tard, le Parti socialiste devrait s'abstenir au second tour du scrutin pour permettre l'investiture du nouveau gouvernement Rajoy, le Parti populaire, la droite, lequel expédie les affaires courantes depuis décembre dernier. On évite ainsi une troisième élection en décembre prochain. Il a fallu pour cela que le PSOE, le Parti socialiste, se débarrasse de son secrétaire général Pedro Sanchez, qui aggravait les déchirements du parti, menaçait de conduire le Parti Socialiste à la mort clinique, le PSOE ayant tout à perdre dans de nouvelles élections, étant marqué à la culotte, si vous me permettez cette expression, par la gauche radicale de Podemos. À cette équation nationale, et ce sera le dernier élément, il faut ajouter l'équation régionale qui interagit. D'une part, les scrutins de septembre en Galice et au Pays Basque ont sanctionné l'effondrement des socialistes, et d'autre part, le débat est largement pollué par la question de l'indépendantisme catalan. Barcelone prévoit un référendum sur l'indépendance sans septembre 2017, même si celui-ci, évidemment, est anticonstitutionnel. Est-ce que je n'ai pas dit de bêtises parce que j'ai eu du mal à synthétiser tout cela?
Non, 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 vous avez fait effectivement la photographie de l'ensemble des défis qui se posent bien au gouvernement qui va entrer en fonction sans aucun doute samedi, puisque le vote, le premier tour du scrutin d'investiture a lieu dans l'après-midi, aujourd'hui. Ce vote sera négatif, puisque le Parti socialiste votera d'abord non, histoire de bien montrer qu'il est opposé à la droite, mais au deuxième tour, ce sera l'abstention, une abstention responsable pour permettre ce fameux déblocage de la situation politique, car comme vous le rappeliez, cela fait plus de 300 jours que le gouvernement Rajoy est un gouvernement en fonction.
Alors, ce gouvernement, donc, on va dire de droite, va gouverner avec Ciudadanos, là aussi, est-ce que j'ai bien compris, et il ne profite en tout cas que de 137 députés sur 350, c'est bien ça?
Voilà, c'est la base sur laquelle pourra s'appuyer Mariano Rajoy. Ce sera un gouvernement monocolore du Parti Populaire, parce que même s'il y a un accord de législature entre le Parti Populaire et Ciudadanos, Ciudadanos a fait savoir qu'il ne souhaitait pas entrer au gouvernement. Et Mariano Rajoy ne cherche pas vraiment à faire entrer les centristes dans sa combinaison gouvernementale. Il était intéressant d'ailleurs hier d'écouter Mariano Rajoy dans son discours programme, car il a effectivement souligné le fait que son gouvernement ne serait pas aussi stable qu'il l'aurait souhaité, ne serait pas aussi sûr, et que ce serait en fait jour après jour qu'il devrait négocier avec le Parlement l'adoption des textes de loi. Et on va avoir un premier signe très rapide qui va être la discussion sur le budget 2017 qui doit être mené très rapidement. Normalement, Madrid aurait dû remettre fin octobre à Bruxelles un schéma schéma de redressement de ses finances publiques, bon, il y aura un petit délai, mais on va tout de suite voir au mois de novembre si effectivement la construction de ce budget est possible ou non.
Alors le Parti Socialiste qui est en pleine déconfiture, ce Parti Socialiste au fond a dit qu'il ne voulait pas collaborer avec le Parti Populaire et qu'il ne ferait rien pour voter des lois ou faciliter leur vote évidemment.
Voilà, le Parti Socialiste est la grande victime de ce blocage politique et il faudra regarder de très près le scrutin de samedi après-midi, le deuxième tour, car hier le porte-parole du groupe parlementaire a bien rappelé qu'il y avait une discipline de vote et que les 85 députés socialistes étaient appelés à s'abstenir. Or, nous savons d'ores et déjà que 7 députés issus du Parti Socialiste catalan voteront non. Et par ailleurs, l'ancien secrétaire général du Parti Socialiste, Pedro Sanchez, celui-là même qui a été défenestré le 1er octobre dernier, a rappelé qu'il n'avait pas l'intention de s'abstenir. Donc, il risque d'y avoir à nouveau la manifestation de la profonde division qui est en train de mener quasiment à une scission du Parti Socialiste. Alors, tout dépend du nombre de députés qui manifesteront ainsi leur indiscipline. Si on est sous les 10 députés, je dirais, l'opération est réussie. Si en revanche, on a 15 ou 20 députés socialistes qui votent non à Mariano Rajoy, ça n'empêchera pas l'investiture de Mariano Rajoy, mais ça voudra dire véritablement que le Parti Socialiste est entré dans un état de décomposition, recomposition tout à fait préoccupant. Je rappellerai quand même cette formule de l'actuel président du Parti Socialiste, qui est un président provisoire, Javier Fernández, par ailleurs président de la communauté autonome d'Asturie. Il a dit « L'incendie a ravagé la maison socialiste, tout est à reconstruire, il ne nous reste que le terrain ». On ne peut pas dire que la formule soit très enthousiaste.
Non, effectivement, au moins il a le sens de l'humour dans des périodes difficiles. Juste d'un mot, ça soulève une question de fond quand même. Alors tout le monde dit la social-démocratie en Europe, etc., est très malade, ça ne marche plus. Mais il y a quand même une question de fond qui est d'ailleurs plus autant européenne qu'espagnole. C'est au fond, est-ce que ces partis comme Podemos, on va dire gauche radicale, comme on dit, je ne sais pas si la formule est bonne, comme Ciudadanos, qui émanent de la société civile, on dit toujours la société civile de façon un peu pompeuse, et est-ce que sont vraiment des partis de gouvernement? Parce que comme le parti la droite était émiettée, la gauche est effondrée, est-ce que ce sont vraiment des partis de gouvernement? Est-ce que cette émergence comme ça de la dite société civile pallie ce manque?
Alors pour Ciudadanos, sans aucun doute, le parti centriste a montré son caractère extrêmement responsable. N'oubliez pas qu'en février dernier, il avait passé un accord de gouvernement avec le Parti Socialiste dans l'idée de réformer et surtout de lutter contre la corruption. Puisqu'il y a eu des secondes élections et que cette fois-ci le panorama, le rapport de force avait changé, Ciudadanos est passé du côté du Parti Populaire, jouant ce rôle de parti charnière, alors qui n'est pas toujours facile par rapport à l'électorat, mais qui est absolument essentiel pour la création d'un gouvernement et d'une majorité parlementaire. Du côté de Podemos, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une surenchère en parti populiste, mais par ailleurs, Podemos est présent dans un certain nombre de mairies, est présent comme soutien parlementaire dans le gouvernement de plusieurs grandes régions gouvernées par les socialistes, et c'est là où on voit du coup l'extension de la crise politique. Par exemple, en Castille-La Manche, la grande région au sud de Madrid, le gouvernement socialiste qui reposait sur le soutien sans participation des députés régionaux de Podemos, aujourd'hui dépend des votes du Parti Populaire, puisque Podemos a décidé de retirer son soutien aux socialistes. Et l'autre grande région qui maintenant peut être menacée de la rupture de cette coalition des gauches, c'est la région de Valence, qui est véritablement emblématique de la tentative de construction d'une majorité alternative au Parti Populaire. Donc Podemos est quand même, malgré tout, dans une dynamique électorale et politique relativement favorable, mais qui effectivement se nourrit de l'effondrement de ces fameux partis de la social-démocratie.
Juste d'un mot, Benoît Pellistrandi, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. On voit quand même, et ce n'est pas du tout satisfaisant, qu'il y a des interactions entre la grande politique nationale, malgré ses défauts, et les politiques régionales, il faudrait les mettre au pluriel.
Oui, il faut les mettre au pluriel, et bien sûr, vous aviez raison d'évoquer tout à l'heure la grande question catalane. Alors, le drame, c'est que comme le Parti Socialiste est déchiré, et que les socialistes catalans sont en train de divorcer des socialistes espagnols, le Parti Populaire ne peut pas compter sur le Parti Socialiste pour articuler une réponse cohérente, constitutionnelle et globale aux défis indépendantistes catalans. Et en septembre 2017, si le gouvernement catalan organise un référendum d'autodétermination, ce sera beaucoup plus grave qu'en novembre 2014, où en novembre 2014, oui, il y avait eu un référendum qui avait été largement conduit en sous-main par le gouvernement catalan, mais qui officiellement n'émanait que de la société civile. Donc on risque d'aller vers un choc constitutionnel, affectif et régional extrêmement douloureux pour l'Espagne en 2017.
On aura le temps malheureusement d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir mis en perspective ce dossier. Benoît Pellistrandi, pour vous écouter franceculture.fr et pour vous télécharger également.
Merci Thierry Garcin. Et demain, il sera question de l'état de droit malmené dans l'Union européenne.
Oui, j'ai mis malmené, mais on pourrait dire violé, notamment par la Hongrie et la Pologne. Donc notre invité sera Édouard Dubout, qui est professeur à Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne.
À demain. 6h55 sur France Culture. Du groupe TV and the Radio, il s'agit d'une chanson d'amour un peu désespérée. Je serai ton ambulance, tu veux bien être mon accident, dit la chanson. Mais je l'ai choisie, mais n'est-ce pas ? Je savais que ça vous plairait, François. Mais je l'ai choisie pour vous parler de tout, sauf d'une histoire d'amour, mais plutôt d'une ambulance que l'on rejette pour de pas très bonnes raisons en plus. Le site d'information Slate rapporte l'histoire de Tamika Cross, cette gynécologue américaine qui s'est portée volontaire pour assister à un passager pris d'un malaise dans un avion. Sauf que l'hôtesse de l'air a commencé par refuser, puis a fini par demander à la jeune femme de lui présenter son certificat de médecine. Et c'est finalement un médecin blanc, nous raconte-t-on, qui a fini par aider. Tamika Cross attaque aujourd'hui la compagnie aérienne Delta Airlines pour discrimination. Et lorsque la jeune femme a partagé son histoire sur Facebook, 14 000 personnes ont réagi, dont des médecins noirs qui lui ont fait part d'histoires de méfiance similaires. Depuis, sur les réseaux sociaux, le hashtag ou mot-clé What a Doctor Looks Like montre des selfies de médecins afro-américains ou latino-américains qui partagent eux aussi leurs expériences de racisme, de patients, par exemple demandant à voir le vrai médecin et non pas l'assistant ou l'assistante. Un blog blackdoctor.org a également été créé dans ce sens. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Émilie Chaudet, bonjour François et bonjour à tous.
Il est 6h57, l'heure de nous livrer votre humeur du jour.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
Et oui, parce que le débat politique autour des viennoiseries se poursuit, Guillaume.
Oui, et même plus précisément autour du pain au chocolat. Et comme vous le savez, rien à voir avec le pain au chocolat et l'IMC, l'indice de masse corporelle. Alors, je vous résume les épisodes précédents. Jean-François Copé, après sa sortie sur le pain au chocolat profané pendant le ramadan, ça c'était il y a quelques mois, ou l'inverse, hein, d'ailleurs, le ramadan profané par le pain au chocolat, eh bien, Jean-François Copé s'est vu demander le prix du dit pain au chocolat, et il l'a sous-estimé d'à peu près 600%, puisque Jean-François Copé a estimé que le prix de la chocolatine, c'est comme ça qu'on dit à Toulouse, se situait entre 10 et 15 centimes d'euros, alors qu'il faut bien compter 1 euro pour en manger une de chocolatine. Alors du point de vue de la théorie économique et sociologique, disons-le, Jean-François Copé a tort, parce que méconnaître le prix, c'est méconnaître l'une des qualités essentielles du produit, et parce que l'argent, comme le disait le regretté sociologue Georg Simmel, est l'une des caractéristiques d'une société moderne, c'est l'argent qui résume l'ensemble des rapports sociaux. Et donc, ignorer le prix du pain au chocolat, c'est attester de sa méconnaissance d'une partie du social, ce qui, évidemment, lorsqu'on est politique, fait désordre. Oui, et voilà, cela fait 3 jours qu'on est là-dessus. Le pain au chocolat est en train de grignoter le réel. Les journaux, émissions rivalisent sur le prix des viennoiseries, des chouquettes, demain des saints honorés s'agissant de l'Élysée. Et les politiques, j'imagine, apprennent par cœur le tarif de la pâtisserie-boulangerie après cette fadée, les prix des différents titres de transport. Une fois qu'on aura bien perdu son temps avec ça, il n'est pas certain que tout cela nous renseigne si peu que ce soit sur la réalité sociale du pays. Et finalement, ces buzz sont les bienvenus pour nous éloigner plus encore de la réalité sociale, alors même qu'ils sont censés dénoncer une méconnaissance de cette réalité sociale. Et en matière de régime médiatique aussi, on en a désormais la preuve. Trop de pain au chocolat provoque une concentration de mauvaise graisse.
Merci Guillaume Erner. On vous retrouve tout de suite. Le temps pour moi de remercier l'équipe des Petits Matins. François Angelier, Jacques Munier, Thierry Garcin, Toufik Hakem, Midia Portis-Guerin à la réalisation. Et aujourd'hui à la prise de son, c'était Nicolas Slimani.